Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, aujourd'hui Cinérama, ce sera 4 films, un gros plan et une interview. On écoutera Tran N. Hung ainsi que Juliette Binoche et Benoît Magimel pour La Passion de Dodin Bouffant. Le gros plan, ce sera celui de Marine sur Hayao Miyazaki. Après nous avoir parlé de Le Garçon et le Héron, hein, son dernier dessin animé qui marche très bien en salle, nous parlerons aussi de Five Nights at Freddy's, mais nous allons commencer cette émission par un biopic, L'Abbé Pierre, une vie de combat.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinérama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait.
Le biopic n'est pas le genre que je préfère. Et il faut bien l'avouer que le cinéma nous en donne beaucoup. Hein. Pour un scénariste, c'est plus simple à faire. Il suffit de dérouler. C'est un peu le principe de L'Abbé Pierre, une vie de combat. Film de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne dans le rôle titre. Film qui arrive une semaine après Flo hein, de Géraldine Danon sur la navigatrice Florence Artaud. Mais là, on n'est plus sur les flots. Hein. On y suit avec un souci d'exactitude le chemin que prend Henri Grouès, un fils de bourgeois avec ce que cela avait comme poids au début du XXe siècle, pour devenir l'abbé Pierre qui s'est engagé pour les plus démunis.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur.
Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne.
Le film permet avant tout pour moi, qui ne connaissais que des éléments biographiques de l'abbé, des moments épars, hein, comme Emmaüs, son hiver 54 et tous ses coups de gueule qu'il a pu passer, eh bien de bien mesurer qui était cet homme d'église à qui l'on explique qu'il aura du mal, vu sa santé, à devenir moine capucin. Ce qu'il cherche alors, c'est d'être utile aux autres. Simple, mais comment être efficace? Probablement que la première partie du film va permettre à de nombreux spectateurs de bien comprendre le chemin que l'abbé a emprunté. De la résistance au banc de l'Assemblée nationale, en passant par les bidonvilles de la banlieue parisienne, de la création d'Emmaüs au début de la popularité. On assiste au moment où le prêtre Henri Grouès s'est baptisé l'abbé Pierre, un autre où il prend d'assaut les studios de RTL pour dénoncer les gens qui crèvent de froid en 54, et puis à de nombreuses discussions qu'il a avec Lucie Coutaz, sobre Emmanuel Berco. Une figure de l'ombre pour ceux qui connaissaient mal l'abbé comme moi, ce personnage qui intervient beaucoup hein, reste malgré tout bien secondaire et n'apparaît que dans le regard de l'abbé.
Je vais bien vous aider.
Merci, ma sœur.
Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ?
Va pour Abbé Pierre.
La seconde partie, la plus proche de nous, s'appesantit davantage sur les doutes que pouvait avoir ce défenseur des sans-abri, tandis qu'elle met en avant un homme médiatique qui sent bien qu'il peut être instrumentalisé. Plus de 50 ans se sont écoulés et Benjamin Laverne a été vieilli. Une belle réussite hein, dans la manière de l'acteur studio. Un bon travail d'acteur, car quand il dit « ta gueule » à Jean-Marie Le Pen, l'abbé Pierre n'est plus très vaillant. C'est dans cette deuxième partie peut-être que le réalisateur a du mal à s'éloigner de la géographie. En termes de mise en scène, le film reconstitue fidèlement les époques. On traverse quasiment un siècle. Hein. Le réalisateur introduit des sortes d'images avec halo du plus bel effet, hein, même si je n'en ai pas saisi le sens. Bien incarné par Benjamin Laverne, cet abbé sera mieux connu une fois le générique tombé. L'abbé Pierre, une vie de combat, est en salle depuis le 8 novembre. Hayao Miyazaki a de nombreux fans. La sortie de ses films est toujours très attendue. Nous parlons maintenant de Le Garçon et le Héron.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Maito.
Maman.
Sauve-moi.
Maman ! J'arrive !
Après le décès accidentel de sa mère dans un incendie, Maito, un garçon de 11 ans, quitte Tokyo pour vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père et sa nouvelle compagne dans un vieux château et rencontre un étrange héron cendré qui va l'aider à comprendre ce marasme étrange et merveilleux que d'autres appellent la vie.
Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
Maïto, sauve-moi!
Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
44 ans après la diffusion sur les écrans japonais de son premier opus Le Château de Cagliostro, Hayao Miyazaki dévoile son 12e long-métrage Le Garçon et le Héron, un film sorti sans aucune promotion et pour cause, le maître de l'animation n'en a vraiment plus besoin. Lorsque Porco Rosso, son premier long-métrage à être distribué en France, était sorti chez nous en 95, les critiques n'y avaient pas été plus sensibles que cela, mais depuis, Miyazaki est devenu le réalisateur de films d'animation le plus aimé des Français, comme en attestait la salle pleine dans laquelle j'ai pu découvrir le film.
Mais toi, d'où tu viens ?
Cette mer, ici-bas, est maudite.
Restez vigilants et unissez vos forces.
Maïto ! Maïto !
Maïto, je suis à la recherche de mon successeur.
C'est toi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Sauve-toi, Maïto !
Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maïto, accepterais-tu de continuer mon œuvre ?
Le vent se lève, sorti il y a 10 ans, assumait un ancrage assez réaliste, hein, davantage que ses œuvres à l'atmosphère féerique, puisqu'il se passait pendant la Première Guerre mondiale. Le Garçon et le Héron prend lui place juste après la Deuxième Guerre, en 1944, et comme souvent chez Miyazaki, qui est né en 1941, la peur de la fin du monde, imminente, reste en arrière-plan. Tout en abordant un thème plutôt nouveau, à savoir le deuil, ce conte initiatique compile et synthétise les obsessions du cofondateur du studio Ghibli. Comme souvent, le patrimoine japonais est présent avec des références que nous, spectateurs français, ne comprendrons sans doute pas et ça n'est pas grave puisqu'elles sont mêlées à des références plus occidentales comme Alice au pays des merveilles. De même, la structure scénaristique est loin d'être classique, hein. Le cheminement narratif étant davantage celui du rêve. Dans la quête du petit Maïto, le beau peut devenir monstrueux, la prolifération des êtres peut devenir inquiétante et il n'y a pas de manichéisme. Les individus sont bons et mauvais en même temps. Le Garçon et le Héron est une œuvre ancrée dans la vie qui croit en l'humanité mais qui invente aussi un monde alternatif. Découvrir ce film sur grand écran est plus que nécessaire. Tant chaque image fourmille de détails, accompagnée par un sound design parfait et inventif qui donne chair à toutes ces créations visuelles et qui habille un long métrage d'animation à la qualité, encore une fois, irréprochable.
Avant de retrouver un petit portrait d'Hayao Miyazaki, une musique de film du japonais que j'aime beaucoup, Ponyo sur la falaise.
すいた食べちゃおうよくよく見てみようあの
Hayao Miyazaki, c'est plus d'une trentaine de films, un monstre sacré au Japon, Marine nous en parle.
Jusqu'à la fin du siècle dernier, Hayao Miyazaki était quasiment inconnu en Occident, en dehors des fans d'animé. C'est la sortie internationale de Princesse Mononoké en 99 qui lui attribuera les faveurs méritées du public, et ce, dans le monde entier. En 2006 déjà, le Times le plaçait dans les personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années. Ses œuvres très poétiques, parfois empreintes de surréalisme, sont aussi accessibles aux enfants qu'aux adultes. Elles sont pensées pour ces deux publics en même temps. Au Japon, il est considéré comme l'égal d'Osamu Tezuka, le père du manga moderne. Et en Occident, on le compare à Walt Disney. Et dans tous les cas, chacun de ses nouveaux films est annoncé en toute simplicité comme le nouveau chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Alors sans doute que la prise de conscience écologique de ces 20 dernières années a permis à ses œuvres, par ailleurs très qualitatives, de trouver un écho chez le public, puisque Miyazaki explore souvent la relation de l'humanité à la nature, à l'écologie et à la technologie, dans un monde en conflit permanent.
Je suis confus et peiné d'apprendre qu'un dieu maléfique a souillé un membre de ma tribu.
Oh puissant seigneur, y aurait-il un moyen de me délivrer de cette malédiction ?
Hélas, c'est trop tard. Mais quitte cette forêt, car si je te revoyais ici, je devrais te tuer.
Tu ne peux rien faire contre les humains et leurs bâtons de feu, ils vous détruiront tous.
Moro, regarde ma tribu. Chaque année, nous devenons plus petits et plus bêtes. À cette cadence-là, nous ne serons bientôt que gibier pour les humains.
Tu voudrais tout risquer dans une ultime bataille, ce serait faire le jeu des humains.
Je ne te demande pas de nous venir en aide, mère Louve. Même si nous devions périr jusqu'au dernier, ce serait une bataille que les humains n'oublieraient jamais.
Et pour cause, Miyazaki n'est pas un grand admirateur de la technologie, pas plus que de la culture moderne qu'il considère comme assez superficielle. Le réalisateur a souffert de grandir pendant l'ère Showa, de 1955 à 1965 au Japon, une époque où la nature, les montagnes et rivières étaient détruites au nom du progrès économique. Et puis bien loin du féminisme washing qui agite Hollywood depuis 2017, où les studios paniquent à l'idée d'écrire des personnages de femmes fortes coûte que coûte, l'artificialité de cette entreprise étant souvent assez visible, Miyazaki a lui toujours créé des personnages féminins forts. Miyazaki décrit lui-même ses personnages féminins comme des filles courageuses et autonomes qui n'hésitent pas à se battre pour ce en quoi elles croient de tout leur cœur, des filles ou des femmes qui peuvent avoir besoin d'un ami ou d'un soutien, mais jamais d'un sauveur. Puisque, pour reprendre ces mots précisément, toute femme est tout aussi capable d'être un héros que n'importe quel homme. De plus, ces personnages ne sont pas sexualisés, alors normal me direz-vous, puisqu'il s'agit de personnages de dessin animé pour enfants. Eh bien, détrompez-vous, hein, dans la plupart des contenus jeunesse, les personnages de filles sont extrêmement minces, féminisés à outrance et habillés de façon courte. Chez Miyazaki, les personnages féminins sont de vrais modèles, elles sont inspirantes, porteuses de valeurs positives, empouvoirantes, et elles ont toutes des caractéristiques qui en font des personnages complexes. Il y a des guerrières, comme dans Nausicaa ou La Vallée du Vent. Il y a des aviatrices, des petites filles courageuses qui s'émancipent, comme Chita dans Le Château Ambulant, ou Chihiro, des sorcières, comme dans Kiki, la petite sorcière.
Cette ville est fantastique!
Tu ne la trouves pas un petit peu trop grande?
Il y avait bien longtemps que je n'avais vu un tel spectacle!
Bonjour, monsieur! Y a-t-il déjà une sorcière dans cette ville?
Non. En tout cas, ça fait des lustres que je n'en ai pas vu.
T'as entendu? On va pouvoir s'installer ici. Merci, au revoir, monsieur. Bonne journée.
Au revoir.
Et puis Miyazaki, c'est aussi l'univers visuel où ses personnages évoluent, un univers souvent baroque avec la figure architecturale du château plus ou moins ancré dans un univers merveilleux, le château dans le ciel, le château ambulant, le château du voyage de Chihiro, le manoir du garçon et le héron. Le château semble incarner une porte vers un autre monde. Et dans le Miyazaki Cinématique Universe, eh bien la musique a une grande place, le compositeur qui accompagne tous ses films étant le célèbre Joe Hisaishi. Hayao Miyazaki, c'est la preuve que l'on peut comprendre profondément ce que les enfants aiment tout en étant un père pas terrible. Son fils Gorō Miyazaki en a fait les frais puisqu'il voyait tellement peu son géniteur qu'il devait visionner les œuvres de son père pour tenter de le comprendre. Gorō a même déclaré que son père était, je cite, « un père nul mais un excellent réalisateur de films d'animation ». Gorō Miyazaki, qui deviendra également réalisateur lui-même avec les contes de Terre-Mère. D'ailleurs, Miyazaki, son père, viendra assister à la projection, mais il sortira au bout d'une heure et déclarera à la télévision qu'un film ne se résume pas seulement aux sentiments et que son fils n'est pas encore un adulte. Heureusement, ces films regorgent davantage d'amour que sa vie privée et c'est sans doute ce qui explique le culte que tant de gens vouent à Hayao Miyazaki, car au final, la question n'est même pas est-ce que vous aimez les films de Miyazaki, mais plutôt lequel de ces films est votre préféré.
Nous parlions de Hayao Miyazaki, c'était pour la sortie du film Le Garçon et le Héron, film qui cartonne actuellement en salle. Je n'en reviens pas, mais c'est bien la passion de Dodin Bouffant qui représente la France aux Oscars. Nous en parlons maintenant.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Après avoir vu une grande partie des films de la compétition du Festival de Cannes 2023, un film avait paru indigeste, c'est celui de Tran et Nung, La passion de Dodin Bouffant, qu'il ait pu remporter le prix de la mise en scène m'a quelque peu attristé, tant cette mise en scène est voyante, le film se terminant même par un plan alors complexe à faire, à n'en pas douter, et qui assoit, si c'était encore besoin, un goût pour les travelling un peu trop prononcé. C'est un peu comme lorsqu'on met trop de sel ou de poivre dans un plat pour en cacher la fadeur. Car La passion de Dodin Bouffant est un film qui met en avant un art culinaire emblématique du génie français. Mais c'est un film avec une double lecture, car Dodin Bouffant, grand gastronome, n'en a pas que pour ses plats, il en a surtout pour celle qui l'accompagne en cuisine et qui partage sa vie, mais qui ne s'est jamais marié, mon Dieu, quelle bande de débauchés. La première longue séquence est en cuisine, où Eugénie, interprétée par Juliette Binoche, organise un grand ballet, qui consiste à couper, trancher, moudre, jeter dans l'eau bouillante, fricasser, faire suer, et que sais-je encore, tandis que Dodin Bouffant vient de temps à autre mettre sa petite touche. C'est un peu long, il faut bien l'avouer, car on l'a bien compris, que la cuisine prenait du temps et que pour obtenir un plat savoureux, il fallait se démener. Et ce ne sera pas le seul plat du film. On passe énormément de temps en cuisine quand ce n'est pas avec un groupe d'hommes qui fait ripaille pendant que les femmes sont au fourneau ou absentes, on ne sait où. Après tout, on est au 19e siècle et Tran et Nung ne va pas s'embêter à représenter la femme, si ce n'est le personnage donc de Juliette Binoche, très heureuse d'être la cuisinière et d'être aimée par le châtelain et fin gastronome Dodin Bouffant. Le film est adapté du roman La vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet, de Marcel Rouff, paru en 1920. Comme on l'entendra, Tran et Nung a cherché ce qui pouvait bien lier le chef à sa cuisinière, tout autant que de célébrer l'art culinaire à la française en y mettant un pot-au-feu. C'est d'ailleurs le titre en anglais. Malgré les plats qui se succèdent, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. La fonction du spectateur prend une tournure passive et un tantinet négative. La grosse faute de goût d'un tel film, me semble-t-il, en 2023, c'est d'être à complet rebours de l'ère du temps. Mettre en avant l'art culinaire passe encore, mais là, on est vraiment chez les bourgeois, dont on se demande même comment ils vivent. Ces plats ne servent qu'à un club fermé de mâles blancs à faire ripaille jusqu'à s'en crever la panse. Dans la même compétition, Jessica Hausner proposait avec son Club Zéro de ne plus manger pour questionner notre monde. Ici, Tran et Nung propose de bien manger, mais oublie toute dramaturgie ou réflexion. Alors que ce film ait été choisi pour représenter la France aux Oscars est d'une nullité sans nom. Quand on tenait l'une des meilleures palmes d'or depuis longtemps, ça me paraît complètement incompréhensible. Vous l'avez compris, hein, c'est mon pire souvenir cannois, mais ça n'empêche pas d'écouter Tran et Nung et sa comédienne Juliette Binoche et son comédien Benoît Magimel qui était présent à la conférence de presse.
Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans?
De lard fumé, des champignons.
Tu vas voir la crème fraîche?
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Je n'ai pas réellement adapté ce roman dans la mesure où je me suis inspiré très librement et parce que dans le livre, il y avait des pages magnifiques sur, sur l'art culinaire, voilà ce qu'on dit de la nourriture. Et en revanche, j'ai raconté une histoire qui précède voilà, le livre, c'est-à-dire l'histoire d'amour entre Eugénie et Dodin. Voilà, et je voulais vraiment trouver un équilibre entre voilà, comment raconter une histoire parallèle où on laisse vraiment une place réelle à la gastronomie.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et de la soupe de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse.
Je pense que ce qui est dit à travers la nourriture, c'est précisément ce qu'on ne peut pas dire en mots. Dans le film, il y a une métaphore très claire sur le fait que Dodin a déjà tenté tout. Il a déjà tout dit à Eugénie pour la convaincre de se marier avec lui, mais elle a toujours refusé. Et donc son dernier recours réellement, c'est la nourriture. Voilà. Il va essayer de la convaincre avec ça. Et donc, ce qui est beau là, c'est ce mystère-là qui n'est pas dans les mots. Voilà. Et c'est ça qui... Il a tout essayé. Il a même inventé quelque chose sur l'activité de mâcher, voilà, d'essayer de formuler les choses les plus compliquées qui soient. Voilà, de se dire comment tout ça fonctionne quand on mâche, eh bien, ça ne l'a fait que sourire. Voilà, et donc, la dernière chose, c'était ça, c'est la nourriture.
Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous demande encore, Eugénie, marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition. Avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Pour moi, ce film, c'est un hymne à la beauté, à la vie, donc à l'amour. Et parce que la nature est généreuse. Mais alors, ce qu'on en fait, c'est nous avons le choix de continuer le geste de la nature, d'en faire encore plus de la beauté, de la création. Et la cuisine, c'est une création. Et ça nous transforme, ça nous donne une énergie, l'énergie d'aimer, l'énergie de vivre. Venant de Hung, qui vient du Vietnam et qui a adopté la France comme son pays, et la France l'a adopté aussi. Et c'est très émouvant pour un Français de souche, disons, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais... un peu quand même. C'est très émouvant, en fait, de voir cet amour du raffinement français, mais qu'on oublie aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est... pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour de Hung à la France.
Je suis si heureuse et reconnaissante.
Il faut de la culture, de la mémoire, pour que le goût se forme. C'est merveilleux de nourrir les gens qu'on aime, encore une fois. De travailler la matière, d'avoir une envie, c'est charnel, c'est puissant, c'est délicat, c'était merveilleux de pouvoir travailler avec tout ça. Et c'est vrai que c'est des déclarations d'amour en permanence. Il essaie de surprendre Eugénie et elle devine toujours ce qu'il veut faire. Hein ? Difficile de la surprendre, c'est vrai. Mais malgré tout, moi j'ai appris tout au long du film, voilà, en regardant les gens qui me conseillaient, voilà, j'ai appris la patience, le geste précis, voilà, pas de précipitation. Au début, j'avais la tendance à me précipiter tout le temps pour être dans un rythme, mais finalement, chaque mets, chaque matière a son propre rythme. Donc, ça régale quand on aime ça.
Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Vous ne vous êtes jamais eu.
C'était Tran et Nung et Juliette Binoche, accompagnée de Benoît Magimel pour le film La Passion de Dodin Bouffin en salle depuis le 8 novembre. Il se passe des choses étranges, voire épouvantables, dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Nous parlons de Five Nights at Freddy's.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible.
Oui. Agent de sécurité.
Je suis prêt à tout faire.
Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios n'ont pas le cœur de s'en séparer.
Moi, je travaille et toi, tu roupies.
C'est compris.
L'adaptation des jeux vidéo est désormais devenue une norme hollywoodienne. Alors à quoi le voit-on ? Eh bien justement grâce à des films comme Five Nights at Freddy's. Alors loin d'être un jeu classique, Five Nights at Freddy's est une série de jeux développés par Scott Cawthon qui, après 2 décennies d'échecs dans le domaine, a décidé de compiler ce qu'il estimait être les meilleures idées qu'il avait eues de côté et de tout réunir dans ce projet. Et le succès fut enfin au rendez-vous car depuis 2014, ce ne sont pas moins de 9 épisodes qui sont sortis auxquels s'ajoutent 4 spin-offs soit des histoires dérivées, et tout un merchandising assez incroyable allant de la figurine au roman dérivé étendant l'univers originel. Alors vous l'aurez compris, Cotton a enfin eu le nez fin hein, en se faisant entièrement confiance et a tout simplement opéré dans le domaine du jeu vidéo indépendant ce que des réalisateurs comme John Carpenter ont fait dans le domaine du film d'horreur indépendant. Alors comme la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre, ben c'est le producteur indépendant Jason Blum qui, après avoir racheté et essoré la franchise Halloween créée à la base par John Carpenter, ben a senti le bon coup et a acquis les droits d'une exploitation cinématographique. Mais c'est quoi au final Five Nights at Freddy's ?
Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans.
Bienvenue chez Freddy Fazbear Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie.
Mais oui, bien sûr.
Vous devez être le nouvel agent de sécurité.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Vous les avez déjà rencontrés ?
Qui ça ?
Eux.
Alors on suit hein, les pas hein, quelque peu embrumés de Mike, jeune homme perturbé qui est obligé de s'occuper de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. L'environnement familial ne l'aide pas beaucoup hein, car sa mère est morte et son père a disparu dans la nature depuis un terrible événement ayant frappé la famille. Alors Mike est toujours hanté hein, par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Mike a vécu hein, l'horreur de voir son frère à l'arrière d'une voiture conduite par un inconnu et de ne pouvoir rien faire pour empêcher le rapt hein, de se produire. Récemment licencié et ayant absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby, bah face à une tante qui ne compte que justement sur cette garde pour toucher bah, l'échec de l'État, il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté nommé le Freddy Fazbear Pizzeria. Alors extrêmement populaire hein, auprès des enfants dans les années 80 qui se régalaient hein, de venir déguster bah, tout un tas de saletés, de fast-food, mais ayant la particularité d'être entouré d'ours gigantesques et mécanique, le lieu iconique est désormais à l'abandon suite à la disparition bah tiens, d'enfants ayant mis à mal bah, la réputation du lieu. Son propriétaire ne se décidant pas à raser le lieu, hein, tel l'Overlook dans Shining, eh ben il cherche constamment des veilleurs de nuit n'ayant pas peur hein, de la solitude et des grosses bébêtes. Mais Mike ne tarde pas, bien évidemment, à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses et bien loin d'être infantiles. Alors avec l'aide de Vanessa, hein, une agent de police qui semble extrêmement concernée par l'endroit, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule petit à petit dans un univers cauchemardesque ben, sans savoir si le tout relève de ses troubles mentaux ou d'une réalité ben, beaucoup plus macabre.
Des enfants ont disparu dans les années 80. La police a fouillé la pizzeria de fond en comble.
Y a quelqu'un ?
On les a jamais retrouvés. C'est pour ça que ça a fermé.
Les fantômes des gamins possèdent les robots géants ? Sympa de me prévenir.
Ça s'appelle des animatroniques.
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ils veulent qu'elles deviennent comme eux.
Comment je les arrête ?
C'est trop tard.
Mike !
Reste pas là !
Bon ben bingo, hein, vous l'aurez bien sûr compris, la réalité est bien évidemment macabre. Enfin, elle le serait ben, si le film savait sur quel pied véritablement danser. Car afficher 1h50 au compteur n'est pas vraiment suffisant ben, pour les piètres scénaristes, hein, ben, pour combler l'amateur d'horreur et pour tout simplement respecter ben, un tant soit peu l'ambiance et les sensations procurées par le jeu d'origine. C'est un bel acte manqué, hein, ben, car à l'origine, Gilles Kenan, le réalisateur de Monster House, et Chris Columbus, hein, le scénariste de Gremlins, était en piste pour l'adapter. Alors à la place, hein, il y a la pauvre Emma Tammy hein, qui déçoit grandement après le pourtant sympathique et indépendant The Wind et qui n'arrive pas à diriger le pourtant lui aussi rare mais excellent Matthew Lillard, l'un des célèbres tueurs de Scream. Alors c'est aussi un beau ratage car c'est ben, le prestigieux studio de Jim Henson qui s'occupe des très gros monstres mais pour rien en faire. Alors acte manqué mais bon, pas pour tout le monde car Five Nights at Freddy's a littéralement tout cassé au box-office américain, profitant sans doute de l'effet Halloween, encore une fois. Donc on vous conseille quand même ben, d'aller plutôt vous amuser, voir le très drôle et assez gore, lui, saut 10.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, on parlera de deux killers, Ilma ou Vincent doit mourir, et puis on fera un petit détour vers le cinéma québécois. À la semaine prochaine.